RCF.
Rencontre avec un frère dominicain aujourd'hui. Bonjour Michel Fontaine.
Bonjour.
Théologien, frère dominicain, je le disais, du couvent Sainte-Hyacinthe à Fribourg. Vous êtes entré dans l'ordre des dominicains à l'âge de 49 ans, après plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la santé, du social, du développement. Évidemment, quand j'ai vu votre CV, j'ai eu envie de comprendre cette vocation tardive, religieuse. Mais d'abord, votre vocation pour le soin, comment vous vous êtes orienté dans cette voie ?
Les choses sont souvent très, très articulées, sans qu'on s'en rende tout à fait compte au départ. Je dois quand même indiquer que à l'âge de 17, 18, 19 ans, enfin disons à la fin de mon parcours d'études secondaires, l'idée d'être missionnaire, j'avais le souhait d'être père blanc, d'entrer dans la société des pères blancs. Et nous étions à une période, voilà, des années 68, pour rappeler certains souvenirs, qui ont été à la fois la base et en même temps le déclencheur de ce parcours assez un peu atypique, effectivement. Voilà.
D'accord. Donc, en fait, dans cette époque de grand chamboulement, mais vous étiez en France ou en Suisse à l'époque ?
Alors, en France, je suis d'origine française. Et je suis parti en Suisse en 1981 et j'expliquerai peut-être,
donc.
Voilà, 81, précisément pour travailler au CHU de Lausanne dans le cadre de mes activités de soignant. Voilà. Mais je peux juste dire que le lien apparaissait assez naturel entre partir comme missionnaire, je garde ce terme qui effectivement pourrait être un peu mieux explicité, mais en même temps avoir une qualification professionnelle. Donc les deux se sont très rapidement associés, avoir une activité dans le milieu des soins, soit médecin, soit infirmier. J'ai commencé mes études de médecine et pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas, j'ai basculé parce que là où j'étais, c'était les années 68, 70, 72, la France, au niveau universitaire, était en train de mettre en place des choses assez nouvelles et j'étais dans la faculté de médecine de Bobigny. Et il y avait une filière thérapeutique et soins qui préparait au diplôme d'état d'infirmier. Et j'avais pris cette option pour des raisons d'écourter. Voilà. Étant fils unique, tout seul avec ma maman. Voilà. Et être davantage actif.
Plus directement dans la vie active.
Voilà.
Oui, parce que les études de médecine, on le sait, sont longues. Et pour vous, il n'y avait pas de hiérarchisation de valeurs, médecine, infirmerie, peu importe. On était
alors,
dans le soin.
Écoutez, c'est intéressant votre question parce que précisément, le grand projet à l'époque, qui je pensais un peu réalisé, mais pas comme il était souhaité par le doyen de cette faculté, c'était précisément de préparer dans le domaine de la santé, tous les professionnels au même endroit, avec même des passerelles. C'était un heureux projet entre un médecin, une infirmière, une sage-femme, un laborantin, avec des possibilités de passerelles entre les différentes filières selon les développements de chacune des vocations de tous ces étudiants. Donc la question, et ça m'a beaucoup marqué pour la suite, d'être dans l'interdisciplinarité au départ et formé comme tel, en fait, a été une clé de compréhension de la nécessité de le poursuivre après dans la réalité professionnelle.
Dans ces 25 premières années de vie, dans ce parcours infirmier, alors en parallèle, vous avez étudié la sociologie et autre chose. Et puis, vous êtes allé en Afrique, vous me parlez de missionnaire.
Tout à fait, oui, bien sûr. Étant français encore sur place, j'ai dû réaliser mon service militaire. Et à l'époque, on pouvait partir au titre de la coopération. Donc, j'ai profité de cette possibilité. Je suis parti deux ans au service de la France et après une année supplémentaire. Et j'aurais même pu poursuivre. J'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et donc, trois années qui m'ont confirmé dans l'idée qu'il y avait là un travail extraordinaire à faire de repenser complètement en fait les relations Nord-Sud qui a été ultérieurement l'objet de ma thèse en sciences sociales que j'ai pu finaliser lorsque j'étais après en Suisse.
Alors voilà. Quand je vois le nombre de vos diplômes, je me dis, vous avez voulu abréger médecine pour pouvoir être plus rapidement dans la vie active, mais vous étiez quand même sacrément doué pour les études, ça n'a pas l'air d'avoir été un problème pour vous.
Alors, oui, juste un petit clin d'œil en disant, maintenant que je m'amuse à faire le rétroviseur pour voir comment ça s'est passé, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je pourrais largement mener de front un certain nombre de choses, parce que en fait, ce fameux doctorat que j'ai finalisé à Lausanne, je l'ai fait lorsque j'étais infirmier chef de service au CHU de Lausanne, et il a fallu un grand coup de pied, si je puis dire, dans les fesses de mon directeur de thèse pour me dire, si vous n'arrêtez pas pendant 3 ou 4 mois vos activités, vous n'arriverez jamais à finir votre travail. Ce que j'ai fait, et je remercie, là, j'en profite, la direction de l'hôpital de Lausanne, du CHU, de m'avoir permis de prendre 4 mois pour terminer mon travail de thèse. Et j'en profite pour dire que je l'ai fait en lien avec un grand projet de santé et de développement au nord du Cameroun, qui était un peu à l'image du grand projet de l'OMS des années de la fin 70, des soins de santé primaire. Et grâce à cela, en fait, voilà, j'ai pu mettre un terme à quelque chose et le démarrage aussi de beaucoup d'autres choses à partir de ce travail de académique.
Et alors, si j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, Père Blanc, finalement, vous avez repoussé un petit peu cette idée de vocation religieuse parce qu'on était dans un contexte qui n'était pas très favorable et que peut-être vous vous êtes dit, j'ai besoin de mûrir encore.
Alors voilà, je pense que vous touchez là une des questions importantes, enfin toujours un peu très mystérieuse qui nous habite. Hein. Effectivement, je peux peut-être le résumer en 2 points. Je pense que la vocation a toujours été très présente, mais très mélangée au sens fort du terme service et du prendre soin. Mmh. Ces deux mots-là sont très présents dans tout mon parcours. Et puis, de me dire très rapidement, si je m'engage dans la vie religieuse, je veux d'abord me prouver à moi-même 2 choses. Un aspect sur ma vie personnelle et affective, être au clair sur ce qui je suis, et puis également me prouver à moi-même que professionnellement, je peux faire quelque chose. Tout ça pour arriver à l'âge de 40 ans. J'ai soutenu ma thèse, j'avais 43 ans. Et puis, j'avais une très bonne profession sur Lausanne, une reconnaissance. J'ai acheté une maison, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai parcouru beaucoup de choses. Et puis, j'ai réalisé que voilà, la question fondamentale a rejailli en disant, Michel, il y a probablement encore un pas à faire pour accomplir, je dirais ça sous cette forme, ce que le Seigneur te demande. Et ça s'est passé comme ça. En 1992, la prise de conscience que je devais aller faire un pas supplémentaire et de reprendre ma question fondamentale, qui était celle que quand j'avais 20 ans, je voulais m'engager comme missionnaire en Afrique. L'âge étant là, étant tout seul avec ma mère, mon papa était décédé, donc je ne me voyais pas repartir dans une démarche missionnaire. Et je souhaitais profondément être dans une famille religieuse où l'intelligence de la foi et la vie communautaire était importante et prioritaire. Et m'est revenu un souvenir que les frères prêcheurs, donc les dominicains dont j'avais suivi quelques cours à Paris, à la Cato, pouvaient peut-être être là où je pouvais me réaliser.
Témoins quand la foi se raconte.
Frère Michel Fontaine du couvent Sainte-Hyacinthe à Fribourg, on poursuit cet entretien avec vous. Je voudrais creuser un petit peu sur ce discernement que vous avez fait, du coup, à un âge où aussi on regarde une moitié de sa vie, ou peut-être un peu moins de la moitié derrière, et où on se dit qu'il en reste à peu près autant à parcourir. Comment vous avez discerné, finalement, avant de vous engager dans cette congrégation religieuse?
Ouais. la première chose, je pense que la foi, enfin, en tout cas, ma relation à Dieu, ma relation même à l'Église, a toujours été dans un continuum sans rupture, en fait, avec des hauts et des bas, avec des questions, bien sûr, que je me suis toujours posées. Mais j'étais très attentif à la manière dont l'Église, et j'avoue que j'ai aussi été touché par Vatican II, en fait, cette ouverture, pouvait avancer et faire que on cherchait les uns et les autres à trouver, à revenir à l'essentiel de l'Évangile. Et je ne vais pas dire que c'est le point de bascule qui m'a fait opter pour l'ordre des prêcheurs, mais j'ai lu un livre qui est un gros livre de l'un de ses frères, qui était historien, qui s'appelle « Quand Rome condamne », qui rappelait l'expérience des prêtres ouvriers en France autour de 1954 et la manière dont les dominicains se sont impliqués dans cette réalité, moi qui me touchait beaucoup. Ce que je retenais, c'était d'aller jusqu'au bout d'une logique intérieure. Je pense à des grandes figures comme Chenu, Congar, qui ont été sanctionnées par l'Église, mais qui ne l'ont jamais quittée, et qui se sont mis à repenser l'identité propre du prêtre par rapport à cette exigence et à cet engagement de beaucoup de prêtres auprès du monde ouvrier, des gens pauvres. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose dans cette famille religieuse qui me touche, à la fois dépasser les limites humaines et ne pas condamner, entre guillemets, l'Église, même si parfois nous ne sommes pas d'accord avec elle, accepter par une forme d'obéissance qui n'est pas toujours bien comprise de l'extérieur, ouais. Et se dire que l'essentiel est ailleurs et je reste jusqu'au bout. Et la preuve, c'est que l'un et l'autre, en tout cas, ont été experts au Concile et ont été reconnus après très rapidement comme ayant raison fondamentalement sur la compatibilité entre le fait d'avoir une vie professionnelle et d'exercer le ministère sacerdotal. Donc ça m'a beaucoup touché. Je me dis, c'est là que je pense me réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mot clé dans notre vie religieuse dominicaine qui est celui de la liberté. Il ne faut pas, bien sûr, l'entendre dans le sens de la déliquescence, mais la liberté, c'est l'Évangile. Et je pense que dans notre prédication, nous devons exprimer le mieux possible cette bonne nouvelle.
Et cette liberté, est-ce qu'elle peut frotter parfois avec l'obéissance dont vous faites vœu en tant que religieux ?
Alors, c'est vrai. D'ailleurs, notre ordre ne fait qu'un seul vœu, celui de l'obéissance, dans lequel se trouvent les deux autres, chasteté et pauvreté. En référence fondamentalement à l'obéissance du Christ au Père, donc que ta volonté soit faite. C'est vrai qu'il peut y avoir des frottements. Jusqu'à présent, je peux donner un ou deux exemples en particulier. Le tout dernier que je suis en train de vivre, j'étais à Genève, ça faisait 20 ans, j'avais une activité de curé et en même temps de prieur, et voilà que dans le cadre de ce qu'on appelle nous nos chapitres provinciaux qui fonctionnent tous les 4 ans, il fallait un permettre à Fribourg parce qu'il y avait un besoin absolu et que la demande des frères, nous avons un fonctionnement très horizontal chez nous, a été exprimée en ces termes que, Michel, il faut que, de par un peu peut-être l'expérience que tu as, d'être auprès de jeunes. Et cela m'a beaucoup touché, puisque ça allait déstabiliser l'autre communauté. Donc, entrer dans une vue qui dépasse notre propre horizon personnel, en exprimant à la fois aussi notre difficulté, mais en faisant confiance. Je pense que c'est un terme à la fois banal, mais central dans notre réalité de vie religieuse. Je fais confiance à mes frères qui expriment là un besoin et un désir de continuer une activité et de choisir parmi nous, l'un de nous, pour assurer cette nouvelle mission. Nous pouvons dire non, nous ne sommes pas prisonniers de cette règle, mais je pense qu'on apprend à chaque fois une liberté supplémentaire. Et ça, c'est un peu à contre-temps de notre société, mais je pense qu'on a peut-être quelque chose à dire à ce niveau-là.
Ça rejoint un entretien de mon confrère Thierry Lyonnais avec votre frère Adrien Candiar au micro. J'invite nos auditeurs à aller le retrouver, qui racontait aussi comme il avait été surpris quand on l'avait envoyé en terre d'islam. Ouais. Vous avez exercé finalement plein de métiers et d'émissions dans votre vie, avant la vie religieuse, mais aussi après, infirmier, enseignant, chercheur, aumônier, chapelain, curé de paroisse. Ouais. Quel a été le fil conducteur toutes ces années à travers ces différentes missions ?
Je crois que, et ça j'aurais du mal à l'expliquer objectivement, mais je pense que dans mon histoire personnelle, il y a un ou deux termes qui se retrouvent et qui constituent un peu le tissu général, un peu conjonctif pour reprendre une expression un peu médicale. C'est le prendre soin. Fondamentalement, l'écoute, bien sûr, mais le prendre soin, l'attention à l'autre, être toujours attentif à ce qui est un peu en marge, qui n'arrive pas à être, à rentrer dans un cadre. Je pense qu'en tout ce que j'ai pu faire, bien ou moins bien peut-être, mais cette vigilance-là était présente, donner aux autres ou leur reconnaître une capacité de se développer eux-mêmes et d'être un peu mieux auteurs de leur propre vie. Et tout ça, je pense, constitue les petites pierres du chemin, sans qu'il y ait trop de rupture de l'un à l'autre.
En revanche, passer de la vie civile, avoir une maison, avoir été en couple, à la vie religieuse, pour le coup, fraternelle, et puis tout le côté spirituel de la vie dominicaine, comment ça vous a changé? Est-ce que ça a été facile?
Je donne juste là l'exemple du noviciat, parce que je suis rentré au noviciat à 49 ans, donc vous imaginez, le noviciat, c'est une année complète dans notre processus de préparation à la vie religieuse. Et je me suis retrouvé avec des jeunes qui avaient largement au moins 20 ans de différence que moi. Le noviciat, pas de téléphone, être dans une démarche de grande retraite personnelle pour se confronter à la question qu'on veut absolument résoudre, entre guillemets.
Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas?
Voilà, est-ce que je fais le pas supplémentaire, est-ce que... Alors, étonnamment, c'est vrai que ça bouscule tout ce qui est du commun et de la vie quotidienne dans le civil, mais j'ai très bien vécu ce noviciat, même si ça a été dur, hein, je ne veux pas du tout faire... donner le sentiment que c'est bisounounours, hein, mais il y a des combats personnels. Il faut aborder les questions de la vie aussi affective, de la vie sexuelle, de ce que nous sommes. Et tout cela doit être partagé aussi par la parole. Nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Et mon expérience de vie faisait que je n'ai pas de tabou particulier et je n'ai pas peur d'aborder en fait toutes les grandes questions du quotidien de notre vie. Et ça m'a beaucoup aidé pour dire ben oui, c'est ça, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et très simplement, sans vouloir être hautain par rapport à ça, je suis profondément heureux maintenant de vivre ce que je vis. La vie communautaire est ce qu'elle est, avec ses hauts, ses bas. Je sais ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. C'est aussi une même réalité. Donc, on grandit, en fait, lorsqu'on accepte que l'autre est un peu différent. C'est déjà une première base et on en fait l'expérience tous les jours. Ouais.
Et comment vous avez trouvé un équilibre de vie dans cette nouvelle vie à la fois religieuse, fraternelle et très active?
Ce qui me vient fondamentalement, et je me rends compte que c'est vraiment pour nous le gros fil rouge qui doit ne pas trop disparaître, c'est la prière. Un dominicain n'est pas un moine au sens monastique du terme, même si nous avons une vie conventuelle, quand même régulière. Nous sortons, nous sommes appelés, nous avons souvent le sentiment d'être éclatés, très dispersés dans nos activités. Donc ça, c'est un risque. Mais je le vois en parlant avec les jeunes frères maintenant, que ce qui est fondamental, c'est de trouver cet équilibre dans la régularité. Alors c'est un mot un peu difficile. La régularité, en fait, c'est se dire j'ai une règle de vie. au sens positif du terme. Je peux de temps en temps lâcher la bride, si je puis dire, mais fondamentalement, cette règle n'est pas là pour m'enfermer, mais pour me redire à chaque fois,
ouais,
celui avec qui tu vis, c'est-à-dire le Seigneur, eh bien, tu as des rendez-vous avec lui. Et ces rendez-vous-là, il faut que ce soit quotidien. Donc, c'est un peu ce fil fondamental, le matin, le soir, à tel moment de la journée, de prendre du temps et de se ressourcer pour que le reste soit vraiment en cohérence avec ce que l'on vit intérieurement. Ouais.
Témoin.
Frère Michel Fontaine, théologien, frère dominicain, aujourd'hui au couvent Sainte-Hyacinthe à Fribourg, entré dans l'ordre des dominicains à l'âge de 49 ans. Vous avez été longtemps membre de la commission de bioéthique de la conférence des évêques de Suisse. Vous avez été aussi en service de médecine au moment où on mourait beaucoup du sida dans les années 90. J'aimerais connaître votre rapport, votre regard sur nous aujourd'hui, sur vos contemporains, sur toutes les questions qui traversent notre humanité. Est-ce que toutes les possibilités qu'on a d'agir sur la vie, au final, sont positives ou négatives sur l'homme? Est-ce que tout ce que la médecine nous permet, c'est bien ou pas?
Ouais. Alors c'est vrai que vous posez là des questions fondamentales, essentielles. J'oserais dire au départ que la question de se dire est-ce que c'est bien ou mal est une question bien sûr que l'on doit se poser au début de la réflexion, du questionnement. Ce qui me fait bien réfléchir à ce que vous évoquez à l'instant, c'est de revenir fondamentalement sur l'origine de notre foi chrétienne. Et la révélation, c'est le retour, il est venu prendre notre condition d'homme. À part le péché, bien sûr, sans en être exclu. Il a vécu dans un quotidien avec ses réalités de tous les jours. Or, en fait, c'est ça, la science, la médecine. Je n'ai absolument pas de peur de voir tous ces développements qui peuvent arriver. J'ai travaillé à un moment donné, je fais une petite incursion sur ce passage à Lausanne où j'ai enseigné à un moment donné la philosophie des sciences, où il y a toujours cette crainte de se dire le développement scientifique est à l'opposé de la foi. Absolument pas. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est un peu la liberté de l'homme et la puissance de son intelligence qui lui fait découvrir des choses. Mais à condition que ce soit pensé en termes de bien commun. Mmh. Et la deuxième chose, de toujours penser aussi si les plus petits, les plus fragiles, ceux qui en fait n'arrivent pas à suivre pour toutes sortes de raisons ce développement, sont aussi partie prenante. Totalement. Et c'est les grands débats, je pense, au niveau politique dans nos sociétés. Et cela, le chrétien, le catholique en particulier aussi, se doit d'être acteur pour préserver cet équilibre. Donc, je n'ai pas du tout...
Il n'y a pas de réponse en noir ou blanc. Est-ce que c'est bien ou mal? La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait?
Qu'est-ce qu'on en fait, exactement? Les zones grises, je le dis, je suis un peu aussi moraliste et éthicien, bien sûr. On ne peut pas évacuer les zones grises. Il ne faut pas avoir peur d'entrer dans la réalité de chaque jour. L'homosexualité, enfin, toutes ces grandes questions qui arrivent, ce qui se fait maintenant, le bien, le mal, doit être pris à bras le corps, et l'Église a une responsabilité là, énorme, de ne pas abandonner et d'être présent. On a parlé de l'assistance au suicide, de tout cela, de l'euthanasie, de ce qui travaille les grandes sociétés. Savoir aussi qu'il y a une question culturelle, nos questions d'occidentaux ne sont pas nécessairement celles d'autres cultures et de d'autres pensées. Et comme chrétiens, nous avons une vision universelle. L'être humain est un être aimé par Dieu et il est là en permanence pour l'aider à grandir.
Ben, lui, ouais. je vous entends avec des propos très pape François, on ne laisse personne voilà. sur le bord du chemin, ouais. on accompagne à tout prix. Vous, j'imagine, du coup, en tant que soignant, quelqu'un vous demande un parcours spirituel avant de décider de recourir au suicide assisté, avant d'avorter, ouais. vous lui dites pas non, vous lui dites je t'accompagne dans ton humanité, ouais. etc. Et en même temps, il y a ce dogme de l'Église et les gens ont parfois du mal à comprendre comment on peut lier ouais. les deux, des interdits très forts ou des ouais. dogmes qui paraissent être pour le coup noir ou blanc et une pastorale très, très, très ouverte. Est-ce que c'est pas un peu, je sais pas, hypocrite ?
Alors, je dirais pas hypocrite. C'est, pour moi, et vous touchez là aussi une approche, une lecture, en fait, de notre présence au monde comme chrétien qui doit être faite et de ne pas avoir peur de se trouver, en fait, avec deux éléments. Un élément que je n'ai jamais remis en question. Je suis très au clair avec l'avortement, avec l'homosexualité, avec le mariage pour tous, avec tous ces éléments-là. En termes de repères fondamentaux de notre anthropologie chrétienne, mais en même temps, nous avons la réalité humaine. C'est pour ça que j'évoquais l'incarnation tout à l'heure comme étant en fait le creuset hein, qui nous rappelle que toute situation, quelle qu'elle soit, est une situation qui est habitée par l'esprit. Et de dire, mais si je dis non à ça, ce n'est pas toi que je rejette. C'est pour essayer de bien comprendre où tu en es dans ta situation. Et c'est en dernière analyse, en ton âme et conscience, car la conscience est inviolable, l'Église ne peut pas violer la conscience de quelqu'un, de décider si cette réalité-là, eh bien tu l'engages et tu vas jusqu'au bout de ce que tu as cru être bien pour toi. Dieu et toi. Vous êtes dans une relation qui m'échappe complètement, donc je ne peux pas juger à ce niveau-là. Mais maintenir fondamentalement ce que j'appelle, moi, je le dis un peu par provocation, l'interdit est un acte de libération. Si j'annule l'interdit ou la limite, je perds ma liberté. Et ça paraît très contradictoire, mais non, au contraire. Dans la foi, nous découvrons que lorsque j'ai une limite, j'en découvre davantage mes capacités. Relisons, on ne va pas le faire maintenant, mais les grands passages de la Genèse, c'est précisément ça. La liberté donnée à l'homme grâce à la dimension de l'interdit.
Ça veut dire que cette attitude pastorale, fondamentalement dans la manière dont le chrétien doit l'habiter, elle ne doit pas être jugeante.
Absolument. Et on n'abandonne pas. J'aime bien rappeler que le Christ Jésus, enfin, dans sa réalité incarnée, n'a jamais abandonné quiconque. Ni jamais jugé, mais il a rappelé constamment qu'on avait une capacité de nous convertir. Tout être humain peut retrouver en lui ce chemin qui va l'aider à mieux s'aimer lui-même, probablement, mais aussi à mieux découvrir combien les autres peuvent aussi l'aider.
Ouais. Et alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous partager une joie vécue dans un accompagnement spirituel de vos contemporains dans l'une de vos missions ?
Il me vient à l'esprit, ça date un peu, mais j'étais au CHU de Lausanne. J'étais à ce moment-là responsable du service des maladies infectieuses. J'en ai parlé rapidement, infirmier chef de service. Et je connaissais, au moment du sida, on était dans les années 90, et je connaissais l'un de nos patients, qui était un de mes anciens élèves infirmiers. Et je me souviens avoir parlé avec lui. Il était plus ou moins en fin de vie, il était homosexuel et il me dit « qu'est-ce que je peux faire ? Je me sens coupable, je me sens coupable ». À l'époque, je n'étais pas prêtre et on a eu une très belle discussion. Je lui dis « si tu veux, je peux te appeler l'aumônier de l'hôpital que je connaissais très bien et je pense que fais appel à lui, tu parles avec lui et je pense que tu verras, j'ai confiance ». Et effectivement, cet aumônier est allé le voir. Et il y a eu un élément très très fort dans la relation, disons une confession certainement, un pardon, une libération. Et j'ai revu ce jeune avant qu'il ne parte et il m'a dit « voilà, je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable et que Dieu m'aime ». Et fondamentalement, je crois que cette découverte, au-delà de sa manière de vivre, on était en dehors de toute relation d'ordre du péché ou de toutes ces, de tout ce que malheureusement on catalogue très très vite. Il y a une histoire de vie, elle est comme cela, elle est marquée par cette orientation, et il est parti sereinement. Ce sont des moments très très forts. Le deuxième, c'est ce que j'ai vécu tout récemment, l'accompagnement qu'il a d'une personne qui a demandé l'assistance au suicide et qui, en fait, va poursuivre. Mais je viens de lire ce matin un message qu'elle m'a envoyé par WhatsApp et qui, en fait, montre qu'il y a quelque chose qui se passe en elle. Je ne pense pas qu'elle va revenir sur sa décision, mais il y a tout un travail. Et ce travail-là, je dirais, il nous échappe dans sa profondeur. Par contre, il n'échappe pas à Dieu. Et c'est l'expérience permanente que je reste à avoir au plus profond de moi-même pour me dire que, voilà, personne n'est abandonné.
Merci, frère Michel Fontaine, ce sera un beau mot de la fin. Merci pour votre témoignage et belle route à vous, retour en Suisse.
Merci beaucoup.